VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Burundi, ouverture du procès de 28 officiers accusés dans le coup d'État avorté de mai dernier. Un procès qui met en relief la profonde division de l'armée burundaise. Idriss Fall.
Un de leurs avocats, Maître Onésime Kabaya-Baya, a déclaré que le procès s'est ouvert à Gitega, dans le centre du pays. Il précise qu'il n'a pas pu parler à ses clients ni accéder à leur dossier. Agnès Bangiri Tchenge, porte-parole du ministère de la Justice, dit que le groupe est accusé d'avoir tenté de renverser les institutions et d'avoir perpétré des assassinats et d'autres actes de violence. Parmi les accusés, le général Cyril Ndaï Roukié, ancien ministre de la Défense, et 5 autres généraux, dont le colonel à la retraite Bosco Daradangwa. Plusieurs leaders du coup d'État avorté du 13 mai dernier sont toujours en fuite. Depuis l'échec de ce putsch, le général Godefroy Niyombare n'est pas réapparu en public et n'a fait aucune déclaration. Mais le général Léonard Nganda Komana assure qu'ils n'ont pas baissé les bras et chercheront à renverser le président Pierre Nkurunziza. Vendredi, des combats ont opposé les loyalistes et les insurgés dans la capitale. Près de 90 personnes sont mortes, des civils pour la plupart.
Selon Refugees International, une ONG américaine militant pour la protection des personnes déplacées, des Burundais réfugiés au Rwanda sont recrutés par des groupes armés en violation du droit international. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'ONG américaine pointe du doigt le recrutement de réfugiés burundais à l'intérieur du camp de réfugiés de Mahama dans le sud-est du Rwanda par des groupes armés non étatiques. Refugees International dit s'être basé sur des renseignements collectés au Rwanda en septembre et octobre 2015 et il mentionne en particulier le recrutement d'enfants. Michael Boyce, l'un des rédacteurs du rapport, estime que l'armement des réfugiés burundais au Rwanda représente non seulement une sérieuse violation du droit international, mais aussi une grave menace pour la paix au Burundi et l'ensemble de la région. En Centrafrique, des tirs, menaces et intimidations ont manqué le déroulement du référendum constitutionnel. Les violences ont fait 5 morts et 20 blessés dans l'enclave musulmane de PK5 à Bangui hier. Les opérations de vote continuent aujourd'hui au PK5 et dans les localités et secteurs où les troubles ont empêché les électeurs d'aller voter. Malgré ces difficultés, Julius Ruffin Ngwadebaba, le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, reste confiant dans le succès du processus électoral censé sortir le pays de 3 ans de violents affrontements intercommunautaires. Un processus dont le référendum constitutionnel n'est que la première étape.
Le déroulement de ce référendum est pour nous un test grandeur nature qui nous permet, là, maintenant, d'évaluer la situation et de prendre des mesures plus adéquates pour le prochain scrutin dont l'enjeu est plus important. L'Autorité nationale des élections se réunira pour évaluer la situation et prendre éventuellement la décision d'autoriser la poursuite de cette opération, non seulement à l'intérieur, mais dans certains pays où les Centrafricains n'ont pas pu, n'est-ce pas, faire le vote, soit à temps, soit carrément pas du tout, pour question de déploiement du matériel et autres. Comme je l'ai dit, nous devons aller de l'avant parce que c'est la seule issue de cette transition qui tire à sa fin. Et donc, les mesures adéquates seront prises. Je ne dirais pas qu'ils corrigeront toutes ces failles, mais au moins pour que nous organisions, là, d'ici là, un scrutin acceptable aux résultats acceptés.
Julius Ruffin Ngwadebaba, rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, au micro de notre envoyé spécial à Bangui, Tatiana Mosso. Procès Hissène Habré à Dakar, l'audition des témoins et des victimes au procès de l'ancien dirigeant tchadien qui se déroule au Sénégal devrait se terminer le 15 décembre. C'est ce qu'a déclaré Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York. Les conclusions des avocats devraient être déposées en janvier, avant les plaidoiries en février, suivies du verdict avant fin mai. Hissène Habré a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Avant de s'exiler au Sénégal, il est jugé par les chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Et au Tchad même, les centrales syndicales lèvent le mot d'ordre de grève dans le secteur public lancé le 8 décembre dernier pour exiger le paiement de leur salaire du mois de novembre. Les centrales syndicales ont obtenu satisfaction de leurs revendications.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
au Nigeria, le mouvement chiite nigérian accuse l'armée d'avoir tué plusieurs centaines de ses membres dans la ville de Zaria, dans le nord du pays. Mais d'autres sources parlent de 20 morts seulement, Salwa Jafari.
Tout a commencé, selon la version des militaires en tout cas, quand les membres du mouvement islamique du Nigeria ont monté des barricades, puis commencé à jeter des pierres sur le convoi du chef d'état-major. Tentative d'assassinat, selon l'armée, ce qui expliquerait l'opération d'envergure qui suivit. Parmi les victimes, l'épouse et les deux fils du leader du mouvement, Ibrahim Zakzaki. Il faut dire que les tensions entre chiites et militaires ne datent pas d'hier. Zakzaki lui-même a été emprisonné à plusieurs reprises. Le président du Forum des médias du mouvement islamique du Nigeria a affirmé, selon la presse locale, que le siège du Forum ainsi que la résidence du chef chiite ont été détruits. Ces meurtres étaient si brutaux, même les personnes blessées dans la fusillade ont été identifiées et tuées de sang-froid par les soldats, peut-on lire sur le communiqué du groupe. Le mouvement islamique du Nigeria est minoritaire dans ce pays où plus de 4 musulmans sur 5 sont sunnites. En juillet 2014, un accrochage entre l'armée nigériane et le mouvement islamique du Nigeria avait déjà causé une trentaine de morts du côté du groupe chiite.
En Guinée, le président Alpha Condé a prêté serment aujourd'hui pour son second mandat de 5 ans. Plus de 10 chefs d'État africains ont fait le déplacement à Conakry pour son investiture. Entre autres, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, son homologue du Burkina Michel Kafando et le président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Toujours concernant les élections, mais au Burkina Faso, la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 29 novembre par le Conseil constitutionnel aura lieu demain. C'est ce qu'a annoncé le Conseil dans un communiqué. Le Conseil devrait valider l'élection de Rokman Christian Kabore, ancien baron du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, passé dans l'opposition un an avant la chute du chef de l'État en octobre 2014. Aucun de ses adversaires n'a contesté le scrutin qui s'est déroulé de manière transparente et crédible de l'avis des observateurs. Le président élu Kabore a souligné aujourd'hui que son investiture le 29 décembre sera la première passation de pouvoir entre civils de l'histoire tumultueuse du Burkina. Le président élu Kabore a également déclaré qu'il n'y aura pas d'impunité pendant son mandat. La justice suivra son cours jusqu'au bout, a-t-il affirmé aujourd'hui lors d'une interview à France 24. Pendant la période de transition, la justice burkinabé a repris les enquêtes sur les assassinats de l'ancien président Thomas Sankara en 1987 et le meurtre du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons en 1998. C'était hier d'ailleurs le 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste Zongo et de ses compagnons. 3 anciens militaires de la garde de l'ex-président Blaise Compaoré ont été inculpés. L'État burkinabé a indemnisé les ayants droit de ce quadruple assassinat et une avenue a été baptisée du nom de Norbert Zongo. Mais l'un des avocats de la famille Zongo a réitéré que les choses ne devraient pas en rester là. Maître Prosper Parama.
Nous avons déjà vécu l'expérience d'une précédente inculpation dans ce dossier, qui finalement a abouti à un non-lieu. Voilà pourquoi nous insistons pour dire que ce que nous recherchons, ce n'est pas uniquement l'inculpation. L'inculpation, c'est un moyen pour atteindre la finalité. Et la finalité espérée par tout le peuple, c'est l'identification, le jugement, non seulement des commettants dans cette affaire, mais aussi et surtout des commanditaires.
Maître Prosper Parama, un des avocats de la famille Zongo au Burkina Faso. Et puis au Mali, un camp de la MINUSMA, la mission onusienne dans le pays, a été la cible de tirs d'obus aujourd'hui à Gao, la plus grande ville du Nord. Pas de blessés ni de dégâts selon l'ONU et les autorités locales. Hier, des hommes armés avaient attaqué un poste des forces armées maliennes à Niono, dans la région de Ségou, au centre du pays. Bilan, un soldat blessé et 2 portés disparus. Les violences continuent dans le pays, malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les ex-rebelles du Nord. La lutte contre le terrorisme maintenant, le groupe État islamique déjà ancré solidement sur les côtes de la Libye commence à progresser vers l'intérieur du pays. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Selon le responsable français, l'État islamiste a pour objectif l'accès à des puits de pétrole. Et puis ici aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016, inquiète jusque dans son propre parti après sa proposition de fermer les frontières américaines aux musulmans. Mais le maillard de l'immobilier assure que ceux qui pensent lui barrer la route vers la Maison-Blanche se font des illusions. la proposition de Donald Trump d'empêcher temporairement les musulmans d'entrer aux États-Unis met en danger la sécurité nationale du pays, a estimé pour sa part le secrétaire d'État américain John Kerry. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.